Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Et voici que commence, comme chaque mercredi, entre 16h30 et 18h, le magazine Quoi de Neuf. Magazine consacré à l'actualité, notamment culturelle. Aujourd'hui, on va parler de philosophie. Et oui, il est un événement annuel auquel on ne peut échapper et qui s'inscrit dans la durée. 21e semaine européenne de la philosophie, Cécité Philo, avec un thème cette année, Que croyez-vous ? Bien sûr, avec un point d'interrogation. Et on va retrouver avec grand plaisir Claire Allard et ses invités. Bonjour Claire.
Bonjour, je suis très heureuse de revenir sur les ondes de Radio Campus. Ça fait un petit moment déjà maintenant.
Ça te démangeait sûrement. Et puis nous, ça nous avait laissé un très bon souvenir l'an dernier. Donc le traitement de ce, on va dire, festival, on peut appeler ça un festival d'ailleurs, puisqu'il y a aussi un côté festif dans ces événements. Alors Claire, donc tu peux nous présenter tes invités ?
Alors oui, donc nous avons Jean-François Rey, qui est du coup l'ancien président de Cité Philo, donc l'année dernière, de Philo Lille, pardon, du coup. Et du coup, Arnaud Boinich, le président de l'association cette année.
Enchanté.
Donc bah, du coup, bonjour à tous les deux.
Heureux de vous accueillir.
Alors du coup, j'aimerais bien savoir, dans un premier temps, comment a été créée l'association Philo Lille ? Est-ce qu'elle a été créée pour le festival ou est-ce que le festival est apparu a posteriori ?
Non. Les choses sont passées comme ça. Dans la fin des années 90, 97 exactement, deux personnes, Gilbert Glassman et Léon Vichnia, qui avaient l'habitude de monter des événements culturels philosophiques, ils l'avaient fait à Marseille notamment, cherchaient une grande ville de province, non pas trop loin de Paris, pour faire effectivement une grande manifestation de philosophie. Donc c'était Lille. Et tout de suite, on a rassemblé les profs, les professeurs de philosophie de la région, de la métropole essentiellement, pour commencer. Et on a fondé l'année d'après l'association Philo Lille. C'est dans le but de monter la manifestation Cité Philo.
D'accord. Et pourquoi on parle justement de 21e du coup, semaine européenne de la philosophie ? Pourquoi semaine européenne de la philosophie ?
Alors c'est le nom qu'on avait donné au départ parce qu'on a toujours privilégié de déborder la France, hein, d'avoir commencé en Europe. Et c'est vrai qu'à l'époque, des manifestations comme la nôtre, il y en avait très peu. Il y en avait une en Italie. Je ne sais plus où c'est, Modène, je crois. Oui, ça. Et voilà, donc ça s'appelait Semaine européenne de la philosophie parce que nous étions tournés vers l'Europe. Et depuis, nous sommes tournés bien au-delà de l'Europe, jusqu'au Japon, l'Afrique, l'Iran, les Caraïbes, etc.
D'accord. Et du coup, en faisant quelques recherches sur le festival Cité Philo, je me suis aperçu que le thème changeait donc tous les ans.
Ah oui.
Et justement, comment vous choisissez ce thème tous les ans ? Est-ce que c'est un peu au feeling, ce qui vous intéresse ?
Bah, au départ, oui, on a des envies. On a envie de parler de quelque chose. Et puis on teste, chacun le teste. Par exemple, comment est-on arrivé au thème « Que croyez-vous cette année ?» C'est parce qu'un ami psychiatre de Bergerac qui est venu dans le Nord pour faire une conférence avec moi. Et on avait décidé d'un commun accord de parler des croyances. Et il s'agissait des croyances du personnel hospitalier par rapport aux patients. Et en sortant de là, je me suis dit, ce serait pas mal d'en faire un thème de Cité Philo. Et lui, en sortant de là, il dit, ce serait parce qu'il anime une association de philo à Bergerac, ce serait pas mal que ce soit un thème à Bergerac. Donc c'est ce qu'on appelle les idées dans l'air. Mais c'est des idées dans l'air qui recoupent effectivement l'envie de parler de ça. Donc il y a un porteur, celui qui choisit le thème avec ses collègues, avec l'association. Évidemment, si la majorité des membres de l'association du conseil d'administration ou de l'AG ne sont pas d'accord, ça ne se fera pas. Donc cette année, les croyances. Donc, avec un titre accrocheur, parce que les croyances, c'est vague, que croyez-vous ?
D'accord. Et donc à partir de ça, vous créez un petit peu les interventions. Les gens viennent à vous pour proposer de faire une conférence ou vous allez vers eux pour
non,
essayer de...
Non, on les sollicite.
D'accord, et du coup, ça doit être quand même un carnet d'adresses assez important
pour
trouver autant d'intervenants. C'est combien de manifestations Cité Philo sur 3 semaines?
Combien d'intervenants?
Oui, d'intervenants, de conférences.
Excusez-moi, une centaine.
D'accord. Et après, donc, du coup, au niveau de l'invité d'honneur, Barbara Cassin, c'était ensuite, vous choisissez du coup l'invité qui vous semble le plus important parmi ceux que vous avez déjà démarchés ou ça se passe comment?
Chacun propose des noms. Par exemple, moi, j'avais proposé le nom de Miguel Amassour, qui est décédé au mois d'avril. Donc, voilà. Et d'autres amis avaient choisi le nom de Judith Butler, qui est une philosophe américaine contemporaine. Et le nom de Barbara Cassin, une femme qui suit les activités de Cité Philo depuis 20 ans, donc qui sera notre invitée.
D'accord. Et elle parlera de quoi, justement
Alors, Barbara Cassin est de formation philologique. C'est-à-dire qu'elle était helléniste ici, à Lille, avec Jean Bollac, il y a longtemps. Et donc, elle connaît bien les langues, le grec, le latin, etc. Et donc, elle a consacré beaucoup de temps aux problèmes de traduction. Et notamment, elle a monté au Mucem de Marseille une exposition qui s'appelait « Après Babel », qui a eu un certain succès. Et donc, elle viendra nous en parler.
D'accord. Alors ensuite, je me suis intéressée un petit peu justement aux conférences en elles-mêmes. Donc j'ai vu que pour chaque conférence, il y avait donc des invités et des modérateurs qui introduisaient ces conférences. Donc comment vous préparez justement Arnaud Boigny, c'est quand vous modérez
Oui, alors, vous parlez de conférences, peut-être qu'on peut s'arrêter un moment sur la formule de Cité Philo, qui ne propose pas à proprement parler des conférences, c'est-à-dire où quelqu'un parle au public, mais où en effet il y a un intermédiaire, un intercesseur qui fait le lien avec le public et qu'on appelle un modérateur, qui est un présentateur, enfin quelqu'un qui est là vraiment pour mettre en valeur la parole de l'invité, mais selon une formule qui est plutôt celle du dialogue. Le dialogue avec un spécialiste. Hein. Cité Philo, on a eu souvent l'occasion de le dire, hein, c'était l'invention d'un espace de parole assez singulier et qui, depuis 20 ans, fonctionne très bien et même se révèle être presque un petit miracle. Hein. C'est que ce n'est pas la formule du colloque où quelqu'un propose une conférence ou un spécialiste fait une conférence devant des spécialistes. Hein. C'est pas non plus quelque chose qui a un petit peu moins de succès dont on entend moins parler aujourd'hui, mais qui, à l'époque où on a commencé, était très présent dans l'espace public. C'est le café philo, vous savez, où on propose des thèmes et où tout le monde prend la parole pour parler de l'amour, de la sagesse, de la liberté, de la vérité, etc. Mais on est un espace de parole intermédiaire où un spécialiste fait l'effort de s'adresser à tous. Donc voilà, c'est pas un spécialiste qui parle à des spécialistes, c'est pas non plus tout le monde qui parle à tout le monde, mais c'est un spécialiste qui parle à tous. Donc à partir de là, le rôle du modérateur, c'est de recevoir un spécialiste, la plupart du temps autour d'un livre, et de discuter avec lui pendant la première heure, puisque les rencontres se déroulent en deux temps, en 2 heures. La première partie de la séance est consacrée à un échange avec entre le modérateur et puis l'invité. Et la deuxième partie de la séance, on y tient beaucoup, c'est notre identité à Cité Philo, hein, c'est de permettre aux gens qui sont dans la salle de pouvoir poser directement des questions à l'invité, et puis à l'invité de pouvoir s'adresser directement à un public de gens cultivés, hein, de gens de bonne volonté, mais qui ne sont pas, à proprement parler, des spécialistes.
D'accord. Et du coup, là, est-ce qu'il y a déjà une manifestation qui vous a marqué, une rencontre qui vous a marqué?
Alors, jusqu'à présent, Cité Philo a commencé tout récemment. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir Maurice Godelier. Maurice Godelier, qui est un immense anthropologue français, qui nous a fait l'honneur de proposer la conférence inaugurale sur le thème de croire. Croire, c'est admettre que l'impossible devient possible. C'était le titre de sa conférence. Et à titre personnel, j'ai été vraiment ravi d'une part de le recevoir et en même temps ravi de l'écouter. J'étais, de ce point de vue, aussi dans la position du spectateur. Hein. Et c'est le plaisir que l'on a quand on est modérateur de découvrir un travail. Alors, on travaille en amont. Alors là, dans ce cas de figure, puisque c'est la conférence inaugurale, c'est le seul moment où on a vraiment une conférence. Le reste du temps, c'est un dialogue. Mais même quand on reçoit un invité, un spécialiste, et qu'on a travaillé sur son livre, il se passe quelque chose ce jour-là avec l'invité. Et on est aussi dans la position d'écoute qui est celle du public. Et il y a vraiment une posture de découverte. Donc moi, j'ai été marqué par Maurice Godelier, mais je compte assister à quelques rencontres dans les semaines qui viennent, jusqu'au 26 novembre. Mais c'est surtout cette rencontre qui m'a, pour le moment, marqué.
Et vous, du coup, Jean-François Rey, est-ce qu'il y a déjà...
Moi, je rejoins le point de vue d'Arnaud, puisqu'on étions tous les deux modérateurs de Maurice Godelier, qui est un homme éblouissant, charmant, drôle, alors que j'avais lu quelques-uns de ses livres qui sont très rigoureux, très clairs, très, très précis. Et là, c'est le privilège de l'âge, hein, 84 ans, donc on peut se lâcher un peu. Et c'était tout à fait savoureux. Et puis, un deuxième moment, c'était dimanche dernier, l'hommage à Miguel Abinsour, un philosophe, comme je disais à l'instant, qui est décédé prématurément au mois d'avril, et qui, il y avait des philosophes qui l'avaient bien connu, qui étaient ses amis. Et c'était un bon moment de partage.
Et justement, pour tous ceux qui auraient raté les premières rencontres de City Philo, est-ce qu'il y a un moyen de rattraper un petit peu ce retard ?
Oui, bien sûr. À City Philo, nous enregistrons la plupart des rencontres. Certaines sont même filmées et le film ou l'enregistrement sont accessibles sur notre site cityphilo.org, qui d'ailleurs a été entièrement rénové là tout récemment. Et on a la nouvelle version de ce site qui est vraiment actualisée, beaucoup plus en phase avec ce qu'on fait dans les sites aujourd'hui. J'invite tous ceux qui auraient envie d'une séance de rattrapage en quelque sorte, hein, de se rendre sur ce site pour revoir les conférences qu'ils auraient ratées depuis le début de cette 21e édition, mais aussi, hein, nous avons des archives qui remontent à des années antérieures, et il y a un moteur de recherche qui est très bien fait et qui permet d'accéder à de nombreuses rencontres qui ont eu lieu les années précédentes.
D'accord. Et si à la fin justement d'une rencontre, on a envie d'approfondir, est-ce qu'il y a un moyen sur place pour... Je sais que par exemple, il y a des librairies qui sont présentes.
Oui, il y a quelques librairies de Lille qui sont présentes. Hein.
Des partenaires, hein,
des
aussi.
Voilà, partenaires de Cité Philo depuis des années. Et il y a un présentoir sur lequel les livres sont disponibles. On peut les acheter sur place.
D'accord. Et donc du coup, pour continuer un petit peu, on a parlé des rencontres qui vous avaient déjà marquées. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous tardent d'assister ?
Oui, par exemple, demain, il y a deux jeunes philosophes sur judaïsme et modernité, judaïsme et philosophie dans la modernité. Bruno Carsanti, qui est un philosophe trentenaire, qui a déjà beaucoup publié et qui s'intéresse à la fois aux sciences sociales et à la philosophie. Sophie Nordman, qui est une jeune professeure de l'École pratique des hautes études, spécialiste de religion. Donc, il y a de quoi faire.
Oui, de mon côté, moi, il y en a beaucoup. Hein. Malheureusement, on ne peut pas aller à toutes pour des raisons professionnelles, des raisons de travail. Mais il y a mercredi prochain un livre de Frédéric Worms que j'ai beaucoup apprécié, Les maladies chroniques de la démocratie, qui aura lieu à la FNAC de Lille, présenté par Martin Dumont. Il y a également le même jour, le même mercredi, hein, une séance, une rencontre sur l'hospitalité, prendre l'hospitalité au sérieux, avec deux spécialistes, hein, Benjamin Boudou et Martin Delex, également à la FNAC. Et c'est un thème qu'on retrouve énormément sans l'avoir voulu, en fait. Hein. C'est un petit peu comme la sélection, enfin le choix du thème. Souvent, un thème vient, s'impose à nous, et finalement, on s'aperçoit qu'autour, que c'est un thème qui est dans l'air du temps, qui préoccupe beaucoup les gens. Et là, de la même façon, on s'est rendu compte a posteriori, hein, sans que ce soit une volonté, qu'il y avait beaucoup de choses dans le site des philos autour du thème de l'accueil de l'autre, l'accueil de l'étranger. Et voilà, donc il y a cette rencontre. Moi-même, j'organise une rencontre dans mon établissement. Je suis professeur de philosophie à Arras, dans la cité scolaire Carnot-Gambetta, et j'ai proposé dans mon établissement de recevoir Benjamin Boudou lui-même, qui le lendemain donc dialoguera avec Martin Delex, mais de le recevoir autour de son livre « Politique de l'hospitalité ». Et il y a également le lendemain, le mercredi 22, une rencontre, « Mon livre de la jungle », c'est autour de, là aussi, de la question de l'accueil des migrants à Calais. Vous avez Sophie Gigot qui interviendra notamment dans cette rencontre.
D'accord. Et donc justement, pour revenir un petit peu au thème du coup des 21e semaines européennes de la philosophie. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque? Vous avez déjà partiellement répondu, mais justement, que croyez-vous? Qu'est-ce que ça vous évoque personnellement?
Ah ben, que croyez-vous? C'est une manière de revenir un petit peu sur les choses. C'est ça, les philosophes, hein, c'est d'interroger les choses de la vie sous un angle qu'on n'a pas l'habitude d'explorer. Donc, que croyez-vous? La vie quotidienne est tissée de croyances. Pas seulement religieuses. Hein. Quand vous montez dans un avion, vous devez faire confiance à tous les gens qui ont participé à la construction de l'avion. Si jamais vous mettez à douter de leurs compétences... Vous montez plus dans l'avion. Hein. Donc voilà, notre vie fonctionne sur des croyances, souvent ininterrogées, parce que des fois ça peut paraître absurde d'interroger les croyances qui vont de soi. Et bien entendu, alors après, il y a tout le champ de la croyance, des croyances religieuses, des croyances politiques, par exemple la croyance au progrès. L'idée spontanée que c'est mieux de vivre au 21e siècle qu'au 16e siècle. Ben, ça ne va pas de soi. Ça n'a pas du tout de soi. La croyance à l'histoire, plein de choses. Hein. Croyance à la communication généralisée, à l'intercompréhension des hommes. Des croyances politiques, économiques aussi. On se rend compte que l'économie fonctionne sur des notions de confiance, de crédit. In God we trust, comme c'est écrit sur le dollar américain. Trust. Donc le champ de la croyance, c'est immense. Donc il faut le cadrer, bien entendu, il ne faut pas prendre toutes les entrées, il faut le cadrer et l'encadrer. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire.
L'intérêt de cette question, c'était justement, la question n'est pas « croyez-vous ?» hein, parce qu'on pourrait répondre, mais sachant que vous croyez, que croyez-vous ? Donc c'était une façon un petit peu provocatrice, amusante aussi, de renvoyer chacun vers lui-même et à lui-même pour s'interroger sur ce qui ne va pas de soi, c'est-à-dire que bien souvent on pense à la croyance religieuse et les gens ont tendance à penser que la croyance ne les concerne pas, que voilà, la croyance religieuse concerne certains individus, pas forcément eux. Là, c'était une façon d'interroger la multiplicité des modalités de la croyance en essayant effectivement d'aller vers cette prise de conscience que notre rapport à la réalité, il est tissé de croyances implicites, inconscientes, mais nécessaires aussi à la conduite de la vie. Et pour autant, la croyance répond à une intelligibilité, à une logique, il y a une rationalité aussi des croyances. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas de soi à propos des croyances et qu'on a voulu mettre en lumière.
D'accord. Et du coup, pour revenir un petit peu justement à la manifestation en elle-même, qu'est-ce qui se passe une fois que là les 3 semaines seront terminées? Si Philolyde c'est terminé ou vous attaquez directement?
Parce que c'est pas terminé, parce qu'il y a des actions dans les lycées qui continuent, même dans un collège, le collège d'Avion. Il y a des rencontres aussi au CHR, dans le cadre des midis culturels du CHR rue de Lille. Donc il y a un cité philo un peu perlé comme ça tout au long de l'année. Et puis l'association reprend vite du poil de la bête, si je puis dire, nous faisons d'abord le bilan, mois de décembre, janvier, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis on se met au travail, qu'est-ce que vous voyez comme thème, qui pourrait-on inviter, voilà. Donc il y a une période, l'hiver en général, une période de recherche, et ensuite la construction de la manifestation elle-même, prendre des contacts, proposer des invités. Voilà, donc c'est une... Mais pour le public, c'est essentiellement les lycées et les manifestations au CHR.
D'accord. Et si on veut adhérer à l'association Philolyle, comment on vous retrouve justement après les 3 semaines? Sur le site internet? Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter en dehors?
Oui,
il y a une boîte dans laquelle on peut nous écrire, effectivement, hein, que ce soit des professeurs de philosophie, des étudiants aussi. On a beaucoup d'étudiants hein, qui participent, il faut le souligner et puis le signaler et les remercier aussi. Hein, beaucoup d'étudiants qui accueillent, qui participent à l'accueil, qui contribuent à vraiment fluidifier en quelque sorte l'événement. Ils jouent un rôle très important et voilà, ils sont aussi les bienvenus. Ceux qui participent d'ailleurs directement ou ceux simplement qui sont spectateurs ou qui sont autour de Cité Philo ou qui manifestent de l'intérêt pour Cité Philo. On est ouvert aussi à des propositions, on en reçoit hein, parfois de personnalités extérieures. Alors ça peut être ça peut aussi bien être des professeurs dans leur lycée qui nous disent leur désir de s'investir dans Cité Philo et éventuellement d'organiser quelque chose dans leur établissement, mais ça peut aussi bien être des acteurs, d'autres acteurs de la société qui ont une association et puis qui ont une idée et qui nous font part de cette idée, et on essaye de construire ensemble quelque chose. Il faut savoir que Cité Philo rayonne dans tous les Hauts-de-France, en fait. Cité Philo, c'est une manifestation qui n'est pas seulement lilloise, on s'appelle Philo Lille, mais on rayonne dans toute la région, jusqu'à Compiègne, dans toutes les villes, à Lens, par exemple, où l'ouvre Lens. Ce week-end, il y a une promenade dans le Louvre-Lens à travers un regard cinématographique qui sera proposé par Jean-Michel Durafour, qui est professeur en études cinématographiques à l'université d'Aix-Marseille. Donc voilà, donc on rayonne un petit peu au-delà et on est ouvert à toutes les propositions qui peuvent émaner d'individualités et de propositions qui viendraient de tous les horizons.
Oui, c'est vrai que vous en parliez justement à l'instant. Cité Philo, c'est aussi des bénévoles. Du coup, pour en faire partie, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais c'est aussi aller chercher les intervenants à la gare. Exactement. Les ramener, les emmener à l'hôtel, oui. Faire passer des micros.
Exactement. Oui, Cité Philo, c'est une aventure collective et effectivement qui suppose le bénévolat de toutes sortes de tous, à commencer par nous-mêmes, qui sommes bénévoles, la plupart professeurs de philosophie, et qui nous engageons simplement par passion pour la philosophie, par souci de partager aussi nos enthousiasmes, nos lectures, faire connaître des chercheurs que nous estimons, qui nous ont procuré une joie intellectuelle, et voilà, essayer de le communiquer pour le plaisir de simplement transmettre ce plaisir de la lecture de leurs travaux et ce plaisir de la pensée.
Et j'ai envie d'ajouter, dans une langue accessible à tous, dans la mesure du possible.
Exactement, parce que la philosophie parfois peut avoir... Enfin, quand on dit la philosophie, en réalité, c'est les sciences humaines et les sciences en général. On reçoit des chercheurs de tous les horizons, de toutes les disciplines, que ce soit la biologie, les mathématiques, la physique, les sciences sociales, l'anthropologie, la sociologie. C'est pas seulement on s'appelle Cité Philo, mais il faut savoir que tous les savoirs sont représentés à Cité Philo, et en effet, avec la caractéristique de s'adresser à tous, dans la langue de tous. La philosophie, parfois, certains nous disent oui, c'est technique, c'est une... Mais non, la philosophie, elle a bien sûr qu'il y a des problèmes qui sont construits, des concepts qui sont créés, mais avec une nécessité, et on essaye de rendre compte de cette nécessité en l'articulant à des problèmes qui sont les problèmes de tous. C'est les problèmes communs, les problèmes partagés, le problème d'où venons-nous, où allons-nous, que faisons-nous, toutes ces questions-là trouvent une réponse à Cité Philo. D'ailleurs, le thème le dit lui-même, que les croyances, c'est pas un thème qui s'impose comme une sorte d'objet théorique non identifié. Chacun est concerné par les croyances.
Alors justement, dans cette émission Quoi de neuf, nous accueillons donc deux séquences réservées à Cité Philo et à Que croyez-vous, donc ce thème de ces 21e semaines européennes de la philosophie. La semaine prochaine, on aura le plaisir, Claire, de te réaccueillir avec d'autres invités, ou peut-être les mêmes. J'ai peut-être une question à leur proposer en termes de croyance. Alors, on dit que la nature a horreur du vide. Est-ce que la croyance remplit le vide laissé par le doute? Pour la semaine prochaine, on a le temps.
Alors, le doute est une belle question parce qu'elle concerne absolument tout le monde. À partir du moment où je me demande, en prenant ma voiture, en partant en vacances, si j'ai bien fermé le gaz ou si j'ai bien éteint sous la cafetière électrique, c'est un doute. Alors, c'est un doute morbide, certes, obsessionnel, compulsif, comme on dit aujourd'hui. Mais le doute est au moins autant d'étendue que le champ des croyances. Donc, effectivement... Nous avons accueilli dimanche Claudine Tiercelin, qui est professeure au Collège de France et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le doute en question ». Et douter est salubre. Il faut recommander le doute à tout le monde, même s'il peut y avoir des formes pathologiques du doute, comme il y a des formes pathologiques de croyance.
Bien, merci. Merci pour cette conclusion très provisoire. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, sur Radio Campus, 16h30, 17h, 106.6 FM. Et l'archive de cette émission sera très prochainement en ligne. On vous donnera les liens, si vous voulez la rajouter à vos propres sons.
Merci,
merci à tous et à la semaine prochaine. Vous êtes sur Campus 106 FM.